Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à nouveau à une nouvelle semaine qui commence et qui s'annonce avec Mon Chaussure, l'émission dédiée à la danse, à la pratique dansée et à la pensée qui danse. On était en train de parler la dernière fois sur l'esprit qui doit changer, qui doit absolument chercher du nouveau et du renouveau, même dans la répétition. On parlait bien évidemment de la composition. Et cette semaine, on va dans une pratique dansée qu'on n'a pas encore eu l'occasion de recevoir et de parler. Je vous donne la bienvenue, Hélène Sarcier.
Bonjour.
Je te demanderai de te présenter... de présenter un peu ton parcours, qui tu es, comment tu te présentes.
Ok. Du coup, moi, c'est Hélène Sarcier. Donc là, actuellement, j'enseigne la salsa et le street jazz. Moi, depuis toute petite, je danse, depuis que j'ai 5 ans, et ça a toujours été une passion pour moi, que j'ai toujours continué en parallèle de mes études d'ingénieur et de mon travail d'ingénieur. Et il y a quelques années, j'ai décidé de tout lâcher pour vivre de ma passion et du coup d'être prof de danse.
D'accord. Et est-ce qu'on peut trouver le bonheur par la danse ?
Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, d'ailleurs, c'est un petit peu moi ce qui m'a poussée à tout arrêter pour enseigner, parce que j'avais envie de diffuser du bonheur. Parce que moi, ça, la danse m'apporte énormément de bonheur chaque jour, à chaque fois que je danse. Donc, pour être un petit peu plus précise, pardon, au niveau de la salsa, par exemple, ça crée vraiment une espèce de bulle de bonheur. À chaque fois que tu vas en soirée, que tu rencontres des gens, alors que ce soit grâce à la musique salsa qui est très joyeuse, grâce du coup aux connexions que tu fais, au partage, c'est vraiment quelque chose qui permet de lâcher prise. Et aussi le fait de danser sur d'autres musiques qui sont hors salsa ou quand on danse seul. En fait, le fait de mettre son corps en mouvement sur une musique et vraiment d'avoir l'impression que ton corps, il devient un instrument et tu deviens en osmose avec elle, c'est vraiment quelque chose, un sentiment que j'adore. Donc voilà, pour moi, à chaque fois, c'est des beaux moments que j'avais envie de partager du coup avec mes élèves pour qu'ils puissent aussi ressentir ça.
D'accord. Et dans ta pratique, est-ce que tu as des pièges qu'il faut éviter, surtout avec une danse traditionnellement si codifiée, si...
Ouais, du coup, c'est vrai que le piège à éviter, c'est de penser que pour être un leader, il faut être un homme, et pour être un follower, il faut être une femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en 2026, les codes peuvent être un petit peu chamboulés, et on a le droit, en tant que femme, de guider une danse, et en tant qu'homme, de interpréter une danse, ou de suivre, on peut aussi dire. Donc, c'est vrai que moi, les cours que je propose et les événements que je propose sont vraiment inclusifs, et j'ai vraiment envie que mes cours et mes événements soient accessibles à tout le monde et que tout le monde se sente bien dans une ambiance un peu bienveillante et sans jugement. Donc c'est pour ça que au début de chaque cours, j'essaye de ne pas utiliser un langage genré pour laisser la place à chaque personne de choisir le rôle qu'elle souhaite sans être jugée. Donc, pour être un peu plus précise, en salsa, on a forcément deux rôles différents. Donc, on a le leader qui est censé guider et le follower qui est censé suivre. Donc, moi, déjà, j'essaye d'utiliser plutôt guider et interpréter pour que les deux personnes soient actives. Et du coup, on se rend compte quand on commence à donner le cours sans a priori. Il y a autant d'hommes et de femmes du côté leader et autant d'hommes et de femmes du côté follower. Donc c'est assez bien réparti si du coup on n'a pas un petit peu ce schéma, on va dire historique, que l'homme doit guider et la femme doit guider. Et c'est ça qui est bien, c'est que en fait on se rend compte qu'en fonction de notre personnalité, on a peut-être plus tendance à vouloir être décideur, on va dire, de la danse, et de l'autre côté peut-être un peu plus dans le lâcher prise. Voilà, ça dépend un petit peu des personnalités.
Et qui être guidé, c'est pas tout à fait une chose aisée. C'est-à-dire que la femme a eu cette place longuement dans l'histoire, mais ce n'est pas quelque chose de facile, se laisser guider, parce que moi-même, pour avoir visité d'autres danses et d'autres lieux, ça a été un moment très crucial pour moi de savoir qu'il y avait quelqu'un qui prenait des décisions et l'initiative de commencer tel ou tel mouvement, et que ça demande une disposition, ça demande un état d'esprit assez conséquent, surtout pour les hommes. Et donc ça fait plaisir de voir un espace où ce type de situations peuvent se provoquer, parce que j'oserais dire ce que je vais dire, mais un homme par lui-même, il ne mettrait pas dans ces situations de danger ou dans ces situations de vulnérabilité, si ce n'est pas parce qu'il y a un lieu qui le permet, si ce n'est pas parce qu'il y a une pensée derrière ce type de des configurations, je saurais utiliser ce mot qu'on utilise souvent ici dans mon émission. Très bien. Et alors, parlons-nous-en maintenant de la transmission et de la transmission en dehors de l'école. Qu'est-ce que tu en penses de cette question un peu alambique?
C'est vrai que la question peut du coup laisser penser plein de choses, et je pense que je vais y répondre en disant que moi j'aimerais, c'est ce que je fais actuellement, transmettre au-delà de la technique et de la danse en elle-même. C'est-à-dire que oui, la danse, ça va être un outil qui va en fait derrière nous permettre plein de choses. Donc déjà, on va essayer de travailler sur, par exemple, la confiance en soi, prendre sa place, peut-être essayer d'assumer ou de développer sa féminité, son authenticité. Donc voilà, essayer de ne pas se juger, etc. Donc c'est des concepts que j'essaye d'amener tout au long en fait de mes cours. Donc les élèves ne le voient pas forcément de suite, mais c'est vrai qu'au bout d'un an de travail, on voit qu'il y a quand même un impact sur leur vie en dehors de la danse. Ils ont réussi à comprendre certaines choses, etc. Et c'est vrai que pareil au niveau de la salsa, on va essayer de travailler, oui, la technique comme outil pour pouvoir danser avec des personnes, mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est le partage, les soirées, donc la rencontre, la connexion, et ça c'est super important, il ne faut pas le perdre de vue, parce qu'on est là avant tout pour profiter, pour partager, pour rencontrer et vivre la danse, et pas que se concentrer sur la technique et bien faire le mouvement. Il y a bien plus.
Bien plus qui transperce justement le corps en mouvement. Et dans ton expérience, quels sont les pièges à éviter de...
Eh bien, du coup, moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de fois où je me suis beaucoup jugée avec les autres qui étaient à côté de moi, etc. Et je pense que c'est important de ne pas se juger, parce qu'on est des personnes différentes. On ne sait pas la personne à côté de nous si elle a déjà fait de la danse, si elle a déjà fait ce type de danse, si... voilà, on a chacun notre propre parcours, et ce qui fait notre individualité. Donc ça sert à rien de se comparer. Et d'ailleurs, je trouve que le fait qu'on soit tous différents et qu'on danse de différentes manières, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait la beauté de la danse. Parce que si on dansait tous de la même manière, je pense que ça serait ennuyeux.
J'ai un trou là. Oui, non. Le piège, et oui, j'ai un trou. Non, attendez deux secondes, je vais y arriver. Comment tu fais pour justement éviter que les hommes soient toujours leader et les filles follower?
Alors, comment je fais? C'est une bonne question. Alors, déjà, quand tu rentres dans un de mes cours, j'essaye d'utiliser ce langage non genré de follower et leader. Donc, c'est pour ça que j'utilise des mots anglais, parce que c'est des mots qui n'ont pas de genre. Alors qu'en France, on dirait peut-être cavalier et cavalière. En espagnol, pareil. Donc, voilà, l'anglais, c'est vrai que me permet de directement enlever cette question de genre. Ensuite, je commence par un exercice où je mets deux personnes ensemble et je leur dis tester, voilà, de guider, d'être guidé pendant un petit moment, et puis ensuite je leur demande de choisir le rôle qu'ils ont préféré. Et de là, je sépare les deux côtés, les leaders et les followers.
Et tu l'énonces? Il faut qu'ils énoncent verbalement leur choix ou pas?
Alors, dans un premier temps, ils vont juste se mettre d'un côté ou de l'autre, et là je vais leur distribuer des bracelets, donc des bracelets de couleur. Ceux qui ont décidé d'être followers, ils vont être de couleur jaune. Ceux qui ont décidé d'être leaders vont être de couleur bleue. Et ceux qui ont envie de tester les deux rôles, donc en général quand tu vas à un de mes cours, tu choisis l'un ou l'autre, et à force, quand tu as réussi un petit peu à essayer les deux rôles, tu as le droit d'être le bracelet vert, qui est un bracelet les rares, qui veut dire que du coup tu sais faire les deux, et donc en soirée tu vas pouvoir switcher, on dit. Donc de temps en temps tu peux faire le leader, de temps en temps tu peux faire le follower, et même dans une même danse tu peux te prendre le lead, et c'est ça qui est marrant aussi.
Le faire passer quand on est assez expérimenté, se faire passer le guidage, c'est vrai.
Et donc grâce à ces bracelets de couleurs, on ne reconnaît pas les leaders des followers à leur genre, mais à la couleur de leur bracelet. Donc quand tu vas dans une de mes soirées, tu dis « Ah, ben cette couleur est jaune, donc follower ».
Et que tu as fait exprès de décaler les codes couleurs.
Oui.
Ce n'est plus rose et bleu.
Exactement. Alors, il y a quand même le bleu, mais parce que je voulais du vert pour pouvoir avoir le mélange des deux. Mais oui, j'ai essayé d'éviter aussi tout ce qui est code rose et bleu, etc. Donc, ouais. Bleu et jaune, ça sera.
C'est intéressant. Les couleurs, c'est quand même un sacré job. Hein. Tout ce qui passe sous nos yeux tous les jours, ça nous met quelque part. Moi, par exemple, j'associe la couleur bleue aux toilettes, parce que tous les produits d'hygiène viennent en bleu ou en violet, etc.
Et donc, oui, c'est vrai
que au-delà d'une détermination absolue et idéologique, c'est plus la question du conditionnement du quotidien, de comment ça rentre dans notre tête, comment ça nous façonne aussi.
C'est vrai.
Est-ce qu'il y aurait un pas des danses qui serait possible d'être décrit à la radio pour toi?
Un pas de danse de salsa, par exemple?
Ou un geste, ou quelque chose qui fait une sorte de signature pour toi, ou de préférence absolue
Alors, moi, personnellement, j'aime bien travailler les isolations corporelles, parce que... Donc, les isolations corporelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'isoler une partie de son corps indépendamment du reste. Donc, par exemple, savoir bouger son épaule sans faire bouger tout le reste de son corps. Et ça nous permet d'avoir une certaine maîtrise et du coup, derrière, de pouvoir faire plein de choses et d'être vraiment décideur de qu'est-ce que tu fais. Et comme ça, tu vas pouvoir marquer beaucoup plus la musicalité, les accents, les choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler. Après, il y a un slogan que j'aime beaucoup et que... J'ai entendu en Colombie, qui m'a beaucoup marqué et qui correspond beaucoup à ce que j'essaye de transmettre et d'enseigner. C'est le pas le plus important dans la danse, c'est ton sourire. Parce que quand on danse, on est beaucoup là pour essayer de prendre du plaisir, je pense, pour extérioriser, etc. Et au-delà de est-ce que tu fais bien ou pas la chorégraphie ou le pas ou la danse, ce qui est important, c'est que tu t'amuses et que tu prennes du plaisir. Et donc, d'où la citation qui m'a beaucoup parlé.
Et donc, dans cette sensation de voyage qu'elle vient de nous évoquer avec la Colombie, on va écouter les Joe Arroyo, un barranquillero du siècle passé, avec une chanson, et on revient. Ouh.
Vacílalo rumbero.
En suivant les conseils de 1988 qui date cette chanson de En Barranquilla me quedo, on va peut-être essayer de rester à Barranquilla, cette ville qui a donné naissance à certaines personnes célèbres que je ne vais pas mentionner ici. On va peut-être donner la place à Hélène de nous raconter un peu ce voyage qui nous fait beaucoup rêver ici.
La Colombie. Et oui.
Comment est-ce que tu atterris? Si, de ce que tu veux raconter, pour quelles raisons et quelle expérience t'a marqué de...
De la Colombie. Eh bien, donc moi, comme je suis une grande fan de salsa, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine pour essayer de m'imprégner de la culture, de mieux comprendre et de voir comment en fait c'était vécu là-bas comparé à l'Europe. Et donc du coup, j'ai voyagé aussi par exemple à Cuba, au Mexique, au Pérou. Mmh. Et mon dernier voyage, c'était donc la Colombie qui m'a pas mal marqué. Comme vous avez pu le voir avec la phrase qui m'est bien restée.
Qui t'est restée. Mmh.
Et c'est vrai que je ne suis pas allée à Cali, la capitale de la salsa, malheureusement, j'aurais beaucoup aimé. Mais du coup, j'ai visité pas mal d'autres endroits et j'ai essayé d'aller danser la salsa. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de salsa comme moi je l'imaginais en fait. Je m'imaginais qu'il y avait des soirées où les gens ils faisaient plein de figures comme nous on fait en Europe, etc. Et finalement en fait je me suis rendu compte que les Colombiens ils dansaient beaucoup plus avec de simples pas de base et ils s'amusaient très bien avec ça. Et du coup ça faisait un petit peu tâche parce qu'on voyait très bien qu'on était étrangers parce que nous on faisait des figures incroyables et ils étaient là, ah oui d'accord. Alors que eux, ils dansaient pas du tout de cette manière-là. Donc, je pense que c'est aussi dû au fait que en Europe, comme c'est très académique entre guillemets, on apprend beaucoup plus voilà, à faire des tours, des trucs difficiles, etc. Alors qu'eux, ils le dansent peut-être depuis tout petit, dans les fêtes de famille, etc. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus ancré chez eux depuis tout petit. Et en fait, on se rend compte, en les voyant danser, qu'ils sont plus là pour danser, pour du partage et prendre du plaisir entre les personnes. Alors que nous, on est peut-être... plus à essayer de faire des démonstrations de performance. Moi, je fais des figures difficiles, etc. Mm-hmm. etc. Et ça nous remet peut-être un peu à notre place en se disant, bah, finalement, et c'est d'ailleurs ce que je répète souvent à mes élèves, il n'est pas nécessaire de faire plein de figures incroyables et compliquées dans une danse. Plein de figures simples, c'est très agréable. Et c'est là où tu vas avoir le plus d'ailleurs de connexion avec la personne en face de toi. Et c'est là où tu vas peut-être plus lui prendre du plaisir. Donc c'est vrai que ça redescend un petit peu les choses et se dire bah, finalement le but de danser à deux, c'est peut-être plus pour partager et moins pour performer. En tout cas, moi, comme je le vois et comme j'ai envie de le transmettre.
Oui, c'est les grandes discussions de ces études postcoloniaux où on essaie d'échanger la mentalité des non-colons, parce qu'on a tous un petit colon quelque part. Et donc c'est tout un travail intéressant à faire. Et moi-même, pour avoir parcouru des pistes, des danses où il y avait des personnes qui, c'est vrai, utilisaient un vocabulaire... le plus simple, mais qui avait une saveur.
Oui,
on utilise
ça.
Beaucoup le mot sabor mm-hmm. en Colombie pour parler justement de ces choses qu'on peut pas trop décrire
ouais.
parce que c'est à l'intérieur, quoi. c'est pas dans les factuels. Très bien. On va peut-être essayer de comprendre quelles sont tes suggestions, tes impulsions, tes mouvements, et si tu as des combats personnels, et comment ça s'est traduit dans ta philosophie, dans ta façon de le voir, comment tu t'élèves tous les matins.
Eh bien, comme j'avais envie de dire tout à l'heure, en fait, j'ai envie de diffuser du bonheur autour de moi. C'est vrai que mon travail d'ingénieur, je trouvais qu'il n'avait plus beaucoup de sens pour moi. Voilà, on était dans la productivité le plus rapidement possible, voilà, avec beaucoup de stress et beaucoup de négativité aussi. C'était jamais assez.
Mmh.
Et on vivait dans cette ambiance-là. Alors que là, quand je donne un cours de danse, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon impact. Parce que, et mes cours préférés, c'est les cours débutants. Parce que les personnes, elles arrivent et elles me disent « Je vais jamais y arriver à danser, je suis raide comme un bâton, c'est pas pour moi la danse. » Et finalement, en fait, petit à petit, en y allant chacun à son rythme, eh ben, on arrive en fin d'année où ils arrivent à danser. Et ça, c'est ma plus grande réussite. Et on voit vraiment qu'ils sont heureux et un peu bah, transformés. Et du coup, c'est en me levant tous les jours, en allant donner des cours comme ça tous les jours, que en fait, ça me remplit de joie. Parce que je vois que je change des choses positivement, que j'ai un retour positif et que je permets aux gens d'expérimenter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas expérimenté d'eux-mêmes ailleurs. Donc mm-hmm. voilà, on est plus dans le loisir, c'est des choses qui me parlent beaucoup plus.
Parce que tu as commencé à 30 ans ta rencontre avec la danse.
Alors j'ai commencé quand j'avais 5 ans à danser.
Ah oui, non pardon, avec la salsa.
Et non, encore avant.
D'accord.
Donc, moi, j'ai commencé à danser à 5 ans avec tout ce qui est danse académique, etc. Mm-hmm. Et aux alentours de mes 20 ans, j'ai découvert la salsa. C'est une amie, en fait, qui m'a amenée à la salsa. Et je pense...
Là-bas, ici ou là-bas?
Alors, c'était à Lyon,
là-bas.
Exactement.
À Lyon, ok.
Voilà, pendant mes études d'ingénieur, il y avait...
Tu sais, aujourd'hui, les villes se ressemblent. Hein. Il y a tellement des immigrés de beaucoup de pays.
Exactement.
Qu'on arrive à retrouver quand même des ambiances et des choses...
Eh bien, justement, c'est bien
c'est
que...
C'est un peu le... Je pense, je l'appelle comme la fuite du capitalisme, parce que c'est produit par le capitalisme, mais... mais ça, c'est des fuites.
Ben, c'est vrai que du coup, quand j'ai essayé ces cours de salsa à Lyon, donc il y a bien sûr la salsa qui m'a beaucoup marquée, enfin la danse en elle-même que j'ai beaucoup appréciée, mais c'était au-delà de ça. En fait, donc comme c'était l'association de l'école d'ingénieurs, il y avait aussi beaucoup d'Erasmus et du coup beaucoup de personnes d'Amérique latine dans ces cours-là. Et à travers du coup la danse, j'ai rencontré la culture latino, qui m'a aussi beaucoup parlé et que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Et du coup, j'étais tellement intégrée avec les Erasmus qu'on pensait que j'étais Erasmus moi-même et on me posait même la question, c'est bizarre, tu parles super bien français, tu viens d'où ? J'étais, ah ben, moi, je suis française, j'étais la seule. Et,
ah oui,
à être autant intégrée parce que vraiment, ça me parlait beaucoup, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que, en fait, ce qui m'a beaucoup attirée quand j'ai commencé la salsa, c'est direct, voilà, cette notion de partage et de rencontres des différentes cultures, c'est génial, c'est super intéressant. Et donc voilà, j'ai commencé environ à 20 ans à découvrir la salsa.
À découvrir la salsa. Et donc ça doit faire étrange pour toi qu'il y ait un parcours mélangé entre le classique, tu me parlais aussi du street jazz, mm-hmm, et de la salsa, non ?
Oui, c'est ça.
Ton cours doit être...
Eh bien, je pioche des choses un petit peu dans toutes ces disciplines-là. Donc, effectivement, j'ai appris les danses académiques. Ensuite, je me suis mis à la salsa. J'ai fait une formation en danse urbaine derrière. Mm-hmm. Donc, en fait, chaque danse t'apporte des notions différentes et des compétences différentes. Et je vais utiliser, en fait, cette pluridisciplinarité mm-hmm, pour apporter des choses dans ma salsa. Parce que, par exemple, quand on est follower, on fait beaucoup de tours. On est beaucoup guidé pour faire des tours et ça, ouais, et ben les techniques de danse classique, ça sert beaucoup.
Ça sert beaucoup, oui. Après, c'est pas tout à fait les mêmes, non, c'est...
Alors, il y a toujours, par exemple, cette notion de spot, du coup, de centre, etc.
Oui, le centre et spot, oui, les points extérieurs, oui.
Exactement. Et ça, c'est des notions qui sont pas évidentes à comprendre et à expliquer des fois. Donc, c'est vrai que les exercices de danse classique, ça permet d'aider, du coup, à avoir un joli spot, des jolis tours et être capable de tourner seul et que ce soit... En fait, le leader va plus nous aider va être plus une aide, mais il va pas faire tout le mouvement. Et c'est ça qui va faire qu'on va être beaucoup plus stable, par exemple, et qu'on va de suite revenir au bon endroit quand la musique est rapide. Voilà.
Parce que... J'ai encore un autre truc. Aujourd'hui, c'est une journée... je suis absolument fatigué. J'étais... ouf. Je voulais dire quelque chose de très spécifique et c'est parti. Mais tout simplement, pour moi, cette expérience de la danse et quand tu essayes de mélanger aussi les autres styles, on peut retrouver quand même une énergie absolument fascinante à chaque fois de ce qu'on peut faire profiter les corps et le faire questionner même socialement. Mmh. Et moi, j'ai appris... voilà, c'est ça ce que je veux dire. Moi, j'ai appris la danse avec des vieilles dames. Mmh. Parce que moi, j'accompagnais toujours ma tante. Et elle allait dans ce qu'on appelle une viejoteca. C'est-à-dire, c'est des fêtes pour les vieux. Préparées pour les vieux et pour les vieux, pour qu'ils s'amusent. Et ça, c'est très commun dans les quartiers où j'habitais. C'était des retraités, des personnes qui avaient de l'argent. Donc, ils pouvaient... absolument profiter de la vie et c'est comme ça que j'ai cet rapport si intime à la danse. Pour moi, la danse c'est quelque chose de, c'est comme l'écriture, c'est quelque chose qu'on, j'utilise souvent ces métaphores avec le pas et comment le pas par terre quand on y passe, c'est une écriture qui parle de qui nous sommes et de comment se mouvoir dans la ville. Quelques mots pour finir notre entretien d'aujourd'hui ?
Ouais, peut-être. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que la danse, c'est un moyen de communiquer et de partager sans les mots. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire et qui nous permet du coup, voilà, d'aller au-delà des mots. Et c'est incroyable, c'est quelque chose à expérimenter.
Et j'ai failli oublier les plus importants. Il faut que tu nous racontes qu'est-ce qui vient cette semaine à l'altropisme.
Et oui, donc du coup, c'est vrai que j'organise une soirée spéciale salsa, donc salsa tropisme, ça s'appelle, à la Halle Tropisme, jeudi 19 février à partir de 18h30. Je donne un cours de salsa débutant, inclusif, bienveillant et sans jugement. Et ça sera suivi d'une soirée 100% salsa à partir de 20h jusqu'à 23h. Mmh. Donc vous êtes tous les bienvenus pour venir essayer cette discipline.
Ça, c'est un cours d'essai.
Voilà, donc c'est un cours, c'est 5 euros l'entrée et vous pouvez venir essayer. Du
c'est
coup,
bien,
c'est
5 euros, c'est faisable.
Oui.
Pour apprendre avec des gens qui ont déjà beaucoup dansé. C'est toujours un plaisir d'écouter des praticiens et praticiennes de la danse qui nous racontent leur expérience et qui nous font un partage énorme de leur temps et de leur expérience. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle folie dansée ici à Divergence. Merci à toute l'équipe et à bientôt.
Alors tu veux faire danseur ?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez !